Marc 5, 1 à 20, page 1121. Ils arrivèrent sur l'autre rive du lac, dans le pays des Gadaréniens. Dès que Jésus fut hors de la barque, un homme vint à sa rencontre. Il sortait de tombeau. Il était animé par un esprit impur. Cet homme habitait dans le tombeau, et personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne. En effet, souvent, on l'avait attaché avec des fers aux pieds et des chaînes, mais il avait cassé les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le maîtriser. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les tombeaux et sur les montagnes. Il criait et se blessait lui-même avec des pierres. Il vit Jésus de loin, accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte. « Que me veux-tu, Jésus, Fils du Dieu très haut ? Je t'en supplie, au nom de Dieu, ne me tourmente pas !» En effet, Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur !» Il lui demanda, « Quel est ton nom ?»« Mon nom est Légion, car nous sommes nombreux !» répondit-il. Et il le suppliait avec insistance de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de porcs en train de chercher à manger. Tous les démons le supplièrent, « Envoie-nous dans ces porcs afin que nous entrions en eux !» Il le leur permit aussitôt. Les esprits impurs sortirent de l'homme, entrèrent dans les porcs, et le troupeau se précipita du haut de la falaise dans le lac. Il y avait environ 10 000 porcs, et ils se noyèrent dans le lac. Les gardiens du troupeau s'enfuirent et allèrent le raconter dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent vers Jésus et virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion de démons, assis, habillé et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient été témoins de la scène lui en racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux porcs. Alors, ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque le suppliait, demandant à l'accompagner. Jésus ne lui permit pas, mais lui dit, « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi, comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla, et se mit à proclamer dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous étaient dans l'étonnement.
Avant de commencer, je voudrais faire une annonce qui, je pense, ne sera pas incluse dans le temps d'annonce tout à l'heure. Et qui concerne le 21 avril, une date qui vient bientôt, et ce jour-là, notre sœur et amie Tina, ici présente, va déménager et elle aurait besoin d'un coup de main. Plusieurs personnes qui seraient prêtes à l'aider à consacrer une partie de la journée pour cela. Je vous encourage vraiment, c'est une manière d'exprimer concrètement la solidarité pour faire des choses, d'être disponible au moins une partie de la journée, le samedi 21. Parfois, il n'y a rien de plus puissant qu'un témoignage vécu pour convaincre de quelque chose. Par exemple, pour parler de l'horreur de la drogue, il n'y a peut-être rien de plus percutant que le témoignage d'un ancien toxicomane. Pour briser la mythologie djihadiste dans les banlieues, il n'y a sans doute rien de plus authentique que les avertissements d'un repenti. En travaillant sur le texte d'aujourd'hui, ce message, je me suis rendu compte que bien souvent, en lisant, lorsqu'on fait face à ce texte de l'évangile de Marc, on se focalise sur les aspects étranges et assez saisissants de ce texte, hein, l'homme qui entre dans les tombeaux, le corps qui se jette de la falaise, et on passe à côté d'un élément essentiel du récit, et sa conclusion, en fait, c'est le témoignage de l'homme délivré, envoyé par Jésus, pour raconter ce que Jésus a fait dans son. C'est la conclusion du texte. L'homme que Jésus a libéré, il l'a aussi envoyé pour témoigner de lui. Et je vous propose de regarder ça d'un peu plus près. Alors, ce sera encore, je ne serai pas révolutionnaire, c'est plutôt 3 temps de réflexion. Une autorité totale, d'abord, un choc frontal, enfin, un témoignage. À peu près le texte. Verset 1 à 13 pour le premier point, 13 et 17, je vous parle. Donc d'abord, une autorité totale. Alors dans 2 semaines, vos pasteurs se rendront avec plusieurs collègues de l'association des Églises Baptistes à la conférence pastorale d'Évian au bord du lac Léman. Soutenir pour le royaume de Dieu, que voulez-vous. Et de l'autre côté du lac, c'est un autre pays, c'est la Suisse, Lausanne. Bien du temps de Jésus, il y avait de l'autre côté du lac de Galilée la province de Décapole, qui était considérée en fait comme un autre pays, de langue et de culture grecque, et de population majoritairement non-juive. Et au verset 1, vous mentionnez le pays des Gadaréniens, et en fait, le pays des Gadaréniens, ou Gadara, c'était une subdivision de cette région, de la Décapole. Donc quand Jésus a dit au chapitre précédent, chapitre 4, verset 35, « Passons sur l'autre rive », il y a plus qu'une simple balade en bateau, il y a une démarche qui est assez frappante et même assez intrigante venant de Jésus qui, jusque-là, s'est consacré à l'annonce du royaume de Dieu en contexte des Juifs. Jésus, en fait, déclare qu'il veut aller en pays étranger. Alors, est-ce qu'il a voulu donner par là une première indication de sa venue non seulement pour Israël, mais au-delà, pour le monde entier, pour toutes les nations? C'est possible. En tout cas, le fait d'être conscient de ce passage de frontière apporte un éclairage important à ce texte. Alors, on peut se demander, même si Marc ne le précise pas, si les disciples de Jésus étaient parfaitement à l'aise avec cette traversée du lac pour aller en pays païen, pays étranger. Surtout que jusqu'ici, on a vu que la traversée n'a pas été de tout repos. Et là, les ennuis vont continuer. Qu'est-ce qui va se passer quand ils débarquent de l'autre côté du lac? Eh bien, tout de suite, c'est en quelque sorte le pire de ce que le monde païen pourrait offrir qui vient tout de suite à leur rencontre. Un homme sous une emprise démoniaque. Je ne reviens pas particulièrement ce soir sur la manière dont on peut comprendre ce phénomène, cette emprise. On en a parlé il y a quelques semaines lors d'un précédent message. On a vu que le mal a parfois, souvent même, des aspects mystérieux, occultes, et que, dans un sens, c'est la nature même du mal de ne pas se laisser définir trop facilement, de ne pas se laisser identifier trop facilement. Et il arrive dans la Bible, et en fait, il arrive dans le monde d'aujourd'hui encore, plus souvent qu'on ne le pense, qu'un homme ou une femme soit tellement investi spirituellement par l'opposition à Dieu, par le mal, tellement rongé de l'intérieur, que sa personnalité finit par disparaître en quelque sorte pour laisser place à cette puissance sombre que la Bible appelle un esprit mort ou un démon. Et ici, c'est un homme dans cette situation dramatique qui vient auprès de Jésus. Et il est frappant dans le texte de voir que c'est lui qui vient auprès de Jésus, ce n'est pas Jésus qui va le chercher ici. Comme si la puissance qui animait cet homme ne pouvait pas éviter la confrontation avec celui que Marc nous a présenté depuis le début comme le Fils de Dieu. En tout cas, si les disciples appréhendaient cette arrivée en pays païen, ils sont servis, versets 2 à 5, il sortait des tombeaux et il était animé par un esprit impur, cet homme habitait dans les tombeaux, personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les tombeaux et sur les montagnes. Il criait et se blessait lui-même avec des pierres. On peut difficilement faire plus sinistre que cela. Cet homme est tellement loin de Dieu, tellement perdu, tellement loin de la vie que Jésus est venu offrir. Et d'ailleurs, c'est significatif qu'il erre dans les tombeaux. Il ne fait que côtoyer la mort. Alors, on peut supposer que cet homme est bien connu dans les alentours, que l'on racontait des histoires à son propos, qu'il était un peu comme le fou du village, mais en bien plus effrayant. Une petite ironie du texte, et on a plusieurs dans ce texte, c'est que cet homme ne peut pas être physiquement retenu, même par des chaînes, nous est-il dit, et pourtant, spirituellement, il est profondément lié, enchaîné par le mal qu'il a mis. Mais tout va changer lorsqu'il se présente devant Jésus. Alors là, on peut se poser quand même la question, est-ce que c'est une petite partie de sa personnalité à lui, comme submergée par le mal, mais qui arrive quand même à trouver la volonté d'aller devant Jésus pour obtenir une délivrance? Ou bien est-ce que c'est la puissance démoniaque qui ne peut faire autrement que de venir comme convoquée devant le Fils de Dieu? Le texte nous ferait peut-être pencher plutôt sur cette deuxième option. En tout cas, ce qui est clair, c'est que le combat, si on peut dire, n'est pas à armes égales. On le voit dans la manière dont c'est décrit. Verset 7. « Que me veux-tu, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en supplie au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » C'est un comble de voir le démon supplier Jésus au nom de Dieu. Mais ce qui retient notre attention ici, c'est l'autorité totale de Jésus. Jésus ne lutte pas pendant des heures avec des formules d'exorcisme, que sais-je. Quelques mots d'autorité suffisent. Verset 8, sort de cet homme. Esprit entré. Il n'y a pas de suspense. Jésus ordonne. Et les démons supplient, verset 10. À nouveau, les démons supplièrent, verset 12. Jésus leur permet d'entrer dans les portes, verset 13. Donc des verbes, des mots qui expriment une autorité totale. Ensuite, quand Jésus demande à l'homme ou au démon, difficile de dire quelle est l'intention de Jésus en posant la question, quel est ton nom ? Et là, en tout cas, c'est le démon qui répond, en quelque sorte le porte-parole des démons qui répond, Légion, car nous sommes nombreux. Donc comme si les disciples de Jésus n'étaient pas suffisamment écœurés comme ça, les démons prennent en plus le nom d'une division de l'armée d'occupation romaine. Et ici encore, il nous est difficile de nous représenter bien exactement la réalité spirituelle que pouvait constituer une légion de démons. Mais la conclusion que Marc nous invite à tirer est assez claire. L'homme est totalement investi par cette puissance sombre et néfaste, au point que c'est pas un démon, c'est une armée de démons qui disparaît. Et pourtant, une parole de Jésus suffit à ce que les démons soient terrifiés et cherchent en quelque sorte à négocier leur exfiltration. Alors avant de revenir sur ce choc, je propose que nous réfléchissions à quelques leçons que nous pouvons tirer de cette situation. Premièrement, on pourrait dire que c'est difficile de tirer des leçons d'une situation qui paraît tellement loin de notre quotidien. Mais je pense qu'il y en a quand même. D'abord, il y a ce constat que personne n'est trop loin, dans un état trop désespéré, pour être atteint par la grâce et la délivrance de Jésus. Vous savez, là je parle peut-être surtout pour nous qui sommes chrétiens, nous avons autour de nous des personnes qui nous paraissent tellement loin, tellement égarées par rapport à la parole de Dieu, que nous avons peine à imaginer même qu'un jour elles puissent se tourner vers le Seigneur. Mais on peut supposer que ces personnes ne sont pas aussi radicalement perdues, engouffrées tout entier dans le mal, dans la perdition loin de Dieu que nous laissons. Et pourtant, face à la puissance de délivrance de Jésus, même ce cœur si endurci, si dramatiquement loin de Dieu, va entendre la voix du Seigneur et être changé. Et ça doit nous encourager à ne pas baisser les bras dans nos prières, à ne pas commettre l'erreur de penser qu'il y a des gens pour qui il y a plus de situation. Alors, il est fort possible que nous ne puissions plus rien faire dans telle ou telle situation, mais Dieu, lui, peut encore agir, il n'est jamais à court de ressources pour le faire. Et nous pouvons prier qu'il agisse, comme il l'a fait pour cet homme. Maintenant, une autre question qu'il faut nous poser, un peu plus inconfortable, et de nous demander quels sont les liens qui nous entravent encore dans notre relation avec Dieu, sans que nous mesurions, j'imagine, avec la situation de cet homme, a fortiori si nous avons déjà, en Jésus-Christ, été pleinement et définitivement réconciliés avec Dieu. Mais nous avons tous dans nos vies des choses qui sont au minimum des traces, voire de vrais restes du mal qui veut nous affecter. Qui sait quel est ce mal ? La convoitise, l'immoralité sexuelle, la négligence, l'égoïsme, l'avarice, la violence verbale, le mépris, le racisme, comme n'importe quoi. Une chose est sûre, Jésus a la pleine et totale autorité pour nous en donner. Alors venons à lui, apportons-lui nos impuretés, petites ou grandes, en tout cas à nos yeux, et laissons-les nous changer. Alors pour nous, pasteurs ou responsables d'église, nous sommes tout autant concernés par cette problématique du péché de l'homme, mais nous n'en sommes pas moins disponibles pour en parler plus concrètement avec vous, si vous souhaitez savoir comment concrètement venir à Jésus, peut-être la première fois, ou venir à lui avec telle ou telle situation que vous portez. N'hésitez pas à venir vers nous ou vers un ami chrétien de confiance. On a vu donc l'autorité totale de Jésus. Dans la continuité de cela, un choc frontal. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la ferme aux 4000 vaches. Alors il s'agit, il y a des recherches, il s'agit en fait d'un projet de ferme très controversé en Saône-et-Loire. Une ferme qui, comme son nom l'indique, pourrait accueillir jusqu'à 4000 bovins. Et c'est controversé, question de maltraitance des animaux, de consumérisme effréné, etc. Alors dans notre texte, ce n'est pas la ferme des 4000 vaches, mais des 2000 porcs. Alors soit dit en passant, et on a bien la confirmation là qu'on est en pays non-juif, puisqu'on n'élevait pas 2000 porcs comme ça en Israël. En tout cas, les habitants de la région se souviendront longtemps de la visite de Jésus. L'homme qu'ils connaissent tous comme le démoniaque qui errait dans les tombeaux, à qui il s'est esprit finalement est totalement guéri. Mais cette guérison s'est faite de façon aussi effrayante, aussi frappante qu'effrayante. Mettons-nous un instant à la place des gardiens du troupeau qui voient cet énorme troupeau de porcs, plus leur gagne-pain, se jeter dans la mer depuis la falaise de Nîmes. Pour nous qui lisons le texte aujourd'hui, ça nous paraît peut-être un peu drôle comme scène, mais nul doute que pour les témoins de la scène, c'était assez terrifiant. Et cette scène effrayante, sans parler du préjudice économique, j'y reviendrai brièvement, explique en bonne partie la réaction des habitants de la région qui, au verset 17, supplie Jésus, et au passage on montre que le verbe supplier revient très souvent dans ce texte, supplie Jésus de quitter la région. C'est paradoxal, les démons sont partis, mais c'est maintenant qu'ils sont effrayés, nous dit le texte, et qu'ils veulent que Jésus s'en aille. Parce que la puissance manifestée par Jésus les dépasse entièrement. Et c'est comme si elle les mettait finalement bien plus mal à l'aise que la puissance sombre mais très visible qui animait cet homme de lumière. Or, j'ai l'impression que nous ne sommes pas toujours aussi loin que ça de cette réalité, si j'ose dire. La puissance de Dieu, lorsqu'elle confronte le mal autour de nous ou le mal dans nos vies, nous met mal à l'aise. Surtout si ce mal fait partie de notre décor, si on s'y est habitué, bien si on y a plus de temps. Le consumérisme omniprésent de notre société, on est habitué. C'est un mal, sans doute, on peut disserter un peu là-dessus, par exemple, tout ce que la consommation à outrance, comme ça, mais sait-on vivre sans? Ne perdrions-nous pas nos repères si tout d'un coup tout changeait? L'immoralité sexuelle à tous les niveaux, des affiches dans le métro incitant ouvertement à l'adultère, à la pornographie accessible en deux clics, aux versions plus subtiles qui nous sont véhiculées dans la publicité, dans le film, dans le média, etc. On est habitué, on fait avec. Et saurait-on faire sans, c'est poser la question. On pourrait multiplier les exemples, bien sûr. La purification que Jésus nous offre et qu'il veut encore opérer en nous, même nous qui sommes chrétiens de longue date, dérange profondément nos vies, comme elle a profondément dérangé les témoins de la chaîne qui nous électrique dans les vies. Maintenant, une réaction qu'on peut avoir en lisant ce récit, c'est de se demander, c'est étrange, et demander pourquoi est-ce que Jésus a permis aux démons de se réfugier dans les corps. D'abord, c'est absurde, ça les mène à rien, puisque les corps se perdent immédiatement dans la mer. Mais on peut se dire surtout que c'est dramatique pour les propriétaires et les ouvriers autour de ces corps, et qui voient disparaître en un instant leur gagne-pain. Et dans un sens, oui, c'est dramatique pour eux. Je pense qu'il y a une dimension humaine qu'on ne peut pas nier aussi. Mais c'est important parce que ça nous rappelle que la grâce de Dieu n'entre pas dans nos calculs, même les plus logiques. Nous venons de voir la grâce dérange profondément. La purification du mal est douloureuse la plupart du temps. Et peut-être même du temps. Et la scène nous permet de constater aussi que pour le Seigneur, si vous me permettez l'expression, il n'a pas fauté entre un homme délivré de son mal et la perte d'une société. Il n'y a pas une éducation à avoir. Et ce texte nous montre à quel point la vie humaine comme que Dieu l'a. Ça me rappelle une autre scène un peu analogue dans les évangiles, ça nous est raconté dans l'évangile de Luc, au chapitre 13. Pour donner le contexte, on reproche à Jésus d'avoir guéri une certaine femme le jour du sabbat. Et on dit que bon, ça fait 18 ans qu'elle souffre de cette maladie, il y a 6 jours dans la semaine où on peut se faire guérir, là c'est le jour du sabbat, et quand même pas à un jour près, après 18 ans, il faut revenir le lendemain, en gros. Mais Jésus répondra qu'il n'y avait plus un instant à attendre. 13-16, cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait attachée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? La grâce de Dieu ne se calcule pas. Elle n'entre pas dans nos schémas, même dans nos schémas en apparence. Alors s'il y en a parmi nous qui sont en train encore d'essayer, ça peut être notre cas à tous, parfois, d'essayer de faire rentrer l'œuvre de Dieu dans nos vies. On a notre schéma de vie, tout est bien prévu. Nos objectifs, nos priorités, tout est clair. Mais on va essayer de faire rentrer quand même Dieu là-dedans. Tant qu'à faire, ce sera encore mieux avec nous. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Et si on essaye de faire rentrer son œuvre dans notre schéma de vie, il faut renoncer tout de suite. C'est d'ailleurs ce que la Bible appelle la repentance. Il faut laisser Dieu changer tout ça, tout chambouler. Et c'est une purification qui fera mal, mais dont nous avons pensais désespérément bien. Jésus est venu rétablir l'homme dans sa dignité de créature à l'image de Dieu, en paix, avec son créateur. Et on en a un exemple particulièrement frappant dans ce texte. Et quel contraste entre la réaction des habitants qui ne veulent plus voir Jésus et celle de l'homme délivré qui ne veut plus le quitter, verset 18, et qui à son tour le supplie, encore ce verbe, de pouvoir l'accompagner. Mais Jésus a une autre mission pour lui, celle d'être son témoin. Troisième et dernier point, de conclusion, un témoignage vital. L'un des cantiques les plus connus du répertoire hymnologique anglophone est Amazing Grace, chant qui a traversé les frontières culturelles et linguistiques. Beaucoup, même si on a l'habitude d'aller à l'église, connaissent au moins un petit peu. On en chante parfois une version un peu modifiée, traduite et un peu modifiée avec Grâce infinie, voilà, Grâce infinie en français. Mais beaucoup ne savent pas que ce chant qui parle de la grâce merveilleuse de Dieu, d'un homme qui était perdu mais qui a été retrouvé, qui était aveugle mais qui voit, ce chant s'inspire de l'histoire personnelle de son auteur, John Newton. Newton était un marin esclavagiste connu pour sa violence et sa vulgarité, qui un jour a fait une rencontre que lui est fulgurante avec Jésus. Une rencontre qui a radicalement transformé son vie. Il est devenu pasteur et militant contre l'esclavage. Et il nous a laissé, c'est pour ça qu'on se souvient de lui en premier lieu sans doute, ce chant magnifique. Amazing Grace, grâce merveilleuse. Quand on a connu une délivrance magnifique, dans un sens on ne peut pas ne pas en parler. À la fin de notre récit, l'homme délivré veut accompagner le Seigneur. Et comment ne pas le comprendre? Sa vie vient d'être transformée par Jésus, il n'a pas envie de l'écouter. Et on peut aussi se demander comment il va être reçu par les siens maintenant qu'il n'avait pas l'air ravi de sa guérison. Mais Jésus a une autre mission à lui confier, celle d'être, d'une certaine manière, le premier missionnaire parmi les non-juifs. Verset 19, va dans ta maison, vers les siens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Comment il a été guéri. On constate que Jésus ne demande pas à cet homme d'être un grand prédicateur, comme le sera par exemple l'apôtre Paul. Ses projets pour chacun sont différents et toujours parfaits pour nous. Ici, il lui demande simplement d'être son témoin, de raconter ce que le Seigneur a fait. Comment il a vécu la vie de ses disciples. Dieu ne nous appelle pas tous à être missionnaires au loin ou évangélistes percutants comme le regretté Billy Graham, même si il appelle certains, heureusement, à ce type de ministère. Il me semble que la Bible nous montre que Dieu nous appelle tous, par contre, à être témoin. Tous témoins. Et contrairement à une idée un petit peu en vogue ces temps-ci, qui veut que les actes soient toujours plus importants que la parole, être témoin de Christ, ça implique quand même la parole. Ça implique quand même de parler de lui à des gens qui ne le connaissent pas. Et c'est difficile. C'est le premier à reconnaître. C'est difficile. C'est pas naturel pour moi. Ça l'est sans doute pour quelques-uns parmi eux, et c'est magnifique. C'est bien que Dieu vous a donné. Lâchez-vous, profitez-en. Pour beaucoup d'entre nous, c'est difficile et ça l'est particulièrement dans notre société ultra laïque qui n'aime pas l'expression. Alors, comment être témoin de ce que Christ a fait pour nous? Alors, j'aurais quelques suggestions pour les gens qui, comme moi, ne trouvent pas ça facile. Peut-être que la première étape, c'est de ne pas se cacher. De ne pas chercher à dissimuler le fait qu'on est chrétien. De ne pas cacher que, par exemple, on est passé une partie du dimanche à l'église. On n'a pas à le cacher, ou un jeudi soir, on était à la réunion. C'est souvent une occasion de témoignage. Déjà, ne pas cacher notre vision du monde, informée par la Bible, ne pas cacher qu'on est chrétien, ne pas cacher ce que ça implique pour nous, c'est déjà suffisamment difficile. Il s'agit d'en parler naturellement, sans forcer, lorsqu'on a une question à pas de plus, sans chercher artificiellement des occasions. Ne pas se cacher, première étape. Une deuxième étape que je suggère, c'est avec pudeur et discrétion, de dire par exemple à ceux autour de nous qui passent par l'épreuve et qui ne connaissent pas le Seigneur, que nous prierons pour eux. S'arrêter là. Faire toute une salutation juste pour la prier pour eux dans cette situation. Dans la grande majorité des cas, dans mon expérience, ça touche beaucoup de gens. Troisième étape, prier, c'est la plus importante. Prier que le Seigneur suscite les occasions naturelles de parler de notre esprit. Ne pas chercher, encore une fois, à forcer cela. Mais pour la plupart d'entre nous, je ne sais pas trop plus que ce n'est pas de chercher absolument des choses plutôt de vous. Priez fidèlement que des occasions nous soient données. Mais attention, parce que si nous entrons dans ce processus, il est fort probable que Dieu réponde à nos prières. Et ça ne sera sans doute pas toujours satisfaisant. Mais le témoignage que nous portons est vital. C'est l'ADN même de la foi chrétienne. C'est pas juste pour nous, c'est pour le monde. C'est une espérance dans le monde à venir. Alors demandons à Dieu de nous aider à le soutenir. Ce bon Père Céleste, nous voulons te remercier parce que tu es bon et tu as manifesté de façon suprême ta bonté en nous. Voyant ton Fils Jésus-Christ, lui ton vis-à-vis éternel, de toute éternité, avec toi, auprès de toi, qui t'a pleinement révélé. Amen. Merci parce que Jésus non seulement t'a révélé, mais aussi a consenti à s'abaisser à l'extrême, non seulement pour venir dans notre condition humaine, dans notre humanité comme nous l'avons chanté tout à l'heure, mais aussi pour aller jusqu'à la mort de la croix, pour subir à notre place la condamnation que nous n'avons pas connue. Nous pouvons ainsi faire la nous te remercions pour Jésus-Christ, pour tout ce qu'il a fait. Nous te remercions pour le Saint-Esprit qui nous rassemble, par lequel tu dis. Merci pour ce texte de l'Évangile de Marc, pas très facile à premier abord, mais qui nous montre ta bonté et ta puissance tout à la fois. Merci parce que tu es celui qui a le dernier mot sur toutes nos situations, même les plus sordides. Merci parce que le mal est qui nous effraie, nous notre foi. Donne-nous cette confiance et cette foi. Nous conduirons à t'apporter nos situations qui nous semblent les plus détestables. Ça ne te dépasse pas, tu es la foi et le mal.